Vous écoutez
RMC. RMC, les grandes gueules du sport. 9h midi.
Jean-Christophe Drouet.
10h05, belle année à vous les auditeurs, nous sommes en 2023 et les GG sont là, présents, fidèles au poste pour votre émission le samedi, le dimanche de 9h à midi, les grandes gueules du sport avec ce matin Marie Martineau, Marion Bartoli, Pascal Duprat, Simon Dutin. Si vous avez raté la première heure, franchement, d'habitude je me fâche, mais là pour un 1er janvier je peux le comprendre, même si vous ratez les 2 heures, les 3 heures ce sera embêtant quand même, mais la première heure je peux comprendre. N'hésitez pas à aller nous podcaster, c'est déjà en ligne. Nous avons parlé de Kylian Mbappé, d'une punchline de LeBron James, puis on a fait un petit jeu à 9h45, voilà, on s'est bien amusé, même si certains d'entre vous, je tairai les noms, ont peut-être, je mets un point d'interrogation, tricher. J'ai pas dit que c'était possible. Dans quelques instants, nous allons passer la seconde autour de la prolongation de Didier Deschamps. Selon nos informations, c'est bien parti. Reste un point d'achoppement, la durée du contrat. 2 ans ou 4 ans, quelle durée pour vous les GG. 10h30, Pierre Amiche, un homme en colère. Je vous laisse la surprise. Et puis 11h, la seconde des GG, le bras de fer des GG, pardonnez-moi, autour de Julian Alaphilippe. Son boss Patrick Lefebvre envoie grenade sur grenade. Il y aura une team, c'est du management. Il y aura une team, mais c'est de l'acharnement. Vous me direz tout ça à partir de 11h. Nous continuons de faire la fête dans les grandes gueules du sport. J'aimerais connaître maintenant, mes GG, ce que vous avez fait hier soir. Ah. Vous m'avez donné... Et là, les auditeurs, là, vous dites, si vous venez de zapper, vous dites, attends, chérie,
on est où ?
T'as pas mis RTL là ?
Non. C'est les grosses.
T'as pas mis France Culture non plus ? T'as mis quoi ? Bah, RTL, dis donc.
Fond de cette boîte.
Alors.
Et les aromates.
Oh, c'est génial, on embrasse Patrick. C'est tout avec nous, super, génial. Les copains, vous avez pas une autre musique ?
Attendez, mais j'ai l'impression qu'on se moque un peu de Patrick Sébastien. Et ça,
on l'a,
moi, désolé, je peux pas. Alors là, pour le coup, je peux le dire, j'ai tous ces disques.
Je peux pas laisser passer ça.
J'ai tous ces disques.
Votre réveillon, alors qui veut commencer ? Marie, tu vas commencer, tu nous as donné 9 sur 10 tout à l'heure.
Ah, moi, j'ai mis 10.
T'as mis 10 carrément ?
J'ai mis 10 parce que ce matin, en me réveillant à 7 du mat, je n'avais pas la gueule de bois et ça fait hyper longtemps qu'un
premier
temps ne s'est pas déroulé comme ça. Et les copains, c'était vraiment génial. J'ai adoré me lever ce matin.
Tu sais quoi ? Ça te fait du bien, la maternité.
Ah, mais c'est superbe. J'ai des gros nénés.
Je ne voulais pas parler de ça, évidemment. Mais je trouve que c'est bien parce qu'il y a 2 ans, tu n'as pas vu le décompte aussi, mais c'est parce que tu étais totalement à la rue. Que là, c'est juste parce que tu étais sobre. Bravo à toi. Pour toi, Marion, tu nous as mis un 9 sur 10. Pourquoi, sur ton réveillon ? T'as fait quoi ?
Fantastique. Bon, alors donc c'est pas, je pense pas que ça soit un secret, mais je suis pas en studio à Paris, je suis à Dubaï, et donc hier il y avait un magnifique feu d'artifice qui partait de la plage à JBR en passant par l'Atlantis sur la Palme pour finir sur le Burj Al Arab. Et de là où on était, on voyait 3 feux d'artifice en même temps. Et donc ma petite fille de 2 ans était vraiment la plus heureuse du monde, et de la voir comme ça avec des étoiles dans les yeux, d'avoir aussi heureuse, ça a été mon plus beau réveillon, et on l'a passé en famille, c'était génial.
Je rigole, Marion, non pas parce que c'est le Pierre Amiche, je vais le balancer, mais qui me dit dans le casque.
Qu'il a dit
comme ça. Et après, ils sont allés faire un tour en
Meur. Un tour ?
Un tour en Meur, et ils ont mangé des salades de tortue, le truc très écolo.
Quoi ?
Ça me faisait rire. Voilà, pardonnez-moi. Écoute, très bon réveillon, bravo, ma chère Marion. Tu nous inviteras un jour ?
Bah, bien sûr. Mais avec un immense plaisir. J'ai 2 chambres de lit dans mon appartement, donc
parfait.
Avec grand plaisir. <à part.
rire> On est 20.
C'est noté. C'est noté. On viendra à 10.
C'est ça mon problème. Je suis trop belle.
Pascal Duprat, raconte-nous ton réveillon.
Pourquoi 9 sur 10 ? Parce que j'ai passé le réveillon avec la personne que j'aime, avec mon épouse. Parce que je sais mes enfants heureux, ils étaient sans leurs parents. Et ça, c'est important pour nous. Et puis, tout simplement, bloc de foie gras, une magnifique bouteille de Bordeaux, sélectionnée par l'épicurien que je suis.
Oh.
Et puis, agrémenté par quelques photos venues de Dubaï. C'est vrai que j'ai assisté au feu d'artifice de Dubaï. Parce que
exactement.
Oui, parce que Marion a partagé.
Elle a partagé. Parce que Marion est partageuse. Donc, on va bientôt aller voir son appartement de visu. Et puis pour moi, pour ce qui est du dernier point qu'il me reste à acquérir, eh bien c'est aujourd'hui, parce que dans ma petite commune où j'ai été adopté dans le Var, eh bien il y a le feu d'artifice ce soir. Alors certes, moins prestigieux que celui de Dubaï, mais tout aussi magnifique, parce qu'il est lancé au milieu des vignes, voilà, de Bandol. Mmh. Donc voilà, c'était un réveillon qui m'a plu. C'est bien là l'essentiel, vous en conviendrez tous avec moi.
C'est absolument. Je sens que je vais me faire chambrer sur ce que j'ai dit sur Dubaï et tout.
Pas du tout, Marion, pas du tout.
Je sens que je vais m'enfler les deux prochaines heures.
Pas du tout,
Marion. Si ça sonne, c'est nous.
Mais on va vraiment tous venir, ça c'est sûr. Simon, il a mis 6 à son réveillon. Ceux qui l'ont partagé avec toi vont être très contents. En plus, ils écoutent. Non.
Écoutez, j'embrasse Cyril, mon meilleur ami, qui je crois écoute l'émission ce matin et avec qui j'ai eu le plaisir effectivement de partager. Non, je mets 6 parce que justement, comme il y avait le planning de ce matin, on était attendu à 9h, du coup il a fallu mettre un peu le frein à main, quoi. C'est pour ça, il a fallu un peu frustrant, quoi. Voilà.
Je suis d'accord.
Mais ça a été agrémenté de beaucoup d'amour, beaucoup d'affection et quelques calembours bien sentis, et c'est ça le principal, avec un feu d'artifice. J'aime à dire un feu d'artifice.
Ok.
C'est une petite
Vous savez quoi,
j'ai regardé le feu d'artifice tiré sur les Champs-Elysées chez nos copains de BFM TV. C'était formidable. Pourquoi tu rigoles?
Je sais pas.
Je suis fatigué.
Et toi,
attendez, d'abord je donne ma note et ensuite on en parlera un peu plus tard, comme ça on va avancer dans cette émission.
On était en retard par rapport au repas.
Note,
hier, tu nous as pas dit ton repas, donc
On est en retard.
Ouais, il y a pas mal de trucs à remonter là.
On fera un tir groupé à un moment donné dans l'émission où je vous raconterai tout et vous raconterai ceux des 5 dernières années. Vous allez voir, c'est génial. La note sur 10, je mettrai 8. Un bon 8.
Ah, bien.
Voilà. Allez, on va débuter avec cette phrase.
Mon copain Cyril vient de m'envoyer un texto, il est pas content.
Bon, tu devras trouver un autre plan pour l'année prochaine. Allez, on va débuter avec un grand philosophe qui a dit un jour, c'est pas la taille qui compte, c'est la durée.
RMC. Les grandes gueules du sport passent la seconde.
Soit la France arrive en demi-finale et il peut décider, soit c'est terminé pour Didier Deschamps.
J'ai pas dit que c'est terminé.
Il est mort.
Terminé.
Et bravo monsieur, chapeau. Et je pense qu'il faut, savoir laisser la place pour proposer encore autre chose. Voilà, après il méritera de rester s'il en a envie.
J'ai envie de voir votre corps sans habit.
Je veux tes vêtements, tes bottes et ta moto.
J'ai envie de voir autre chose.
Demain, ça va être autre chose. Et puis après-demain, ça va être...
autre chose.
Oui, par exemple.
Même si le résultat avait été inverse, je n'oserais pas donner la réponse aujourd'hui. Donc,
Président, je le connais bien, oui. Mais pour le moment, vous savez mon attachement à Didier.
Sûr que ce soit le bon moment, ma poule.
Tu m'appelles ma poule.
Vous nous confirmez que la discussion avec Didier Deschamps va avoir lieu dans le courant du mois de janvier?
Le plus rapidement possible. Je lui téléphonerai demain ou après-demain, quand il aura récupéré lui aussi chez lui.
Je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas.
Bravo, mes GG. Alors, à l'heure où nous nous parlons, il faut le savoir, c'est important. Didier Deschamps n'est plus le sélectionneur de l'équipe de France. Son contrat vient de s'arrêter à minuit ce 1er janvier. Alors continuera pas, c'est la question que la France du foot se pose. Didier Deschamps et Noël Le Graët se sont rencontrés jeudi à Guingamp pour aborder cette question. Selon nos informations, le sélectionneur des Bleus devrait poursuivre l'aventure. Les négociations se poursuivent. S'il y a négociation, c'est qu'il y a un problème sur la durée de cette prolongation. Ce sera 2 ans minimum, mais Didier Deschamps souhaiterait certainement avoir une garantie jusqu'à la prochaine Coupe du Monde en 2026, donc signé 4 ans. La musique qui fout les jetons. Et cette question, Didier Deschamps doit-il signer 2 ans ou 4 ans? Simon Dutin.
4.
Marie Martineau.
2.
Pascal Duprat.
4.
Merde.
Marion Bartoli.
Et 4. Allez. Et ouais. Allez, viens me voir.
Marie, encore toute seule. Juste vous donner cette précision et cette phrase sortie par le président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, aux Parisiens. Je l'aime, je crois qu'il m'aime. On devrait pouvoir s'arranger. On devrait pouvoir s'arranger. Mais point barre, ce n'est pas fait.
C'est
voici
quoi,
ce qu'a déclaré Noël Le Graët aux Parisiens, donc après cette entrevue jeudi avec Didier Deschamps. Marie, tu vas commencer.
Ouais, je suis très contente de commencer.
Pourquoi plutôt 2 ans?
Alors déjà, en préambule, je voudrais dire quand même que pour signer un contrat, il faut être 2 et qu'il y en a un qui risque de sauter avant qu'ils aient fini de se mettre d'accord et de signer le contrat. C'est-à-dire que...
Je rappelle qu'il y a un audit au sein de la Fédération française de football. Audit qui sera dévoilé mi-février, le 15 février. Et donc, c'est pour ça que tu dis que
je me permets de dire qu'éventuellement, Le Graët pourrait sauter. Quand même. Donc, il s'aime, il s'aime et on s'aime et tout le monde s'aime. En attendant, je pense que c'est peut-être pas aussi simple que ça. Voilà, c'est une première chose. Et la deuxième, 2 ans, parce que dans 2 ans, nouvelle échéance, et que c'est la bonne occasion pour rebattre les cartes aussi, voir ce que ça donne, voir comment il est capable d'emmener cette équipe qui a quand même pas mal de nouveautés jusqu'à la prochaine échéance internationale. Et donc, je vois pas pourquoi on irait jusqu'à 4 alors qu'on peut déjà simplement aller jusqu'à 2.
Pas de blanc-seing, voilà, et de chèque en blanc sur 4 ans. C'est ce que tu veux nous dire.
Je vois pas l'intérêt, même si je n'enlève rien aux qualités de sélectionneur et de coach
précipiter.
Et de manager et de tout ce qu'il a accompli de notre ami Didier.
Ok, Simon Dutin, pourquoi 4?
Parce que déjà, ce qui est formidable, c'est que tu vois, la Coupe du Monde est passée avant la. On se demandait quand même si il fallait pas en finir avec des chances, c'est-à-dire que dans ta question, il y a pas ou alors zéro. Tu vois, tu nous as pas demandé si quelqu'un voulait qu'on change de sélectionneur. Tout le monde est désormais unanime, plus personne, c'est inaudible de te dire.
Il y a un nouveau sondage qui est sorti.
70%.
Ouais, plus de 70% des Français veulent voir Didier Deschamps rester à la tête de l'équipe de France.
Eh ben c'est marrant.
Oui, mais les Français ont peur du changement, comme vous tous.
Les Français voulaient Zidane, exactement. Et effectivement, parce que pour moi c'est une légende, mais absolue quoi, dans le monde du sport, pas seulement en France, c'est une légende. Nos copains de l'équipe faisaient un papier avant la finale en disant que en cas de victoire, il tutoierait des altitudes inégalé par aucun entraîneur français. Il y a le sélectionneur de l'Italie qui avait gagné deux coupes du monde d'affilée dans les années 30. Hein, c'était quand même pas le même monde, le même sport, le même environnement de compétition.
Mais si ça se passe pas bien à l'Euro, Simon, c'est quoi l'intérêt de signer 4 ans?
Moi, je te retourne la question.
Je te pose la question de l'intérêt pour l'équipe de France.
Mettons Zidane pour faire plaisir à la terre entière, et puis ça marche pas.
Moi,
Zidane,
j'avoue que ça m'irait bien, mais
on se qualifie pas pour l'Euro ou la Coupe du Monde, et tu prends qui? Tu mets René Girard.
Mais Deschamps, tu peux me signer que ça sera mieux? T'es sûr que ça va bien se passer à l'Euro?
Deschamps, ça a gagné.
Mais t'en sais rien.
Comment tu peux dire ça? On est allé en finale de Coupe du Monde.
Mais bien sûr. Mais qu'est-ce que t'en sais que dans 2 ans, ça va marcher?
Tu penses qu'en Espagne, tu penses qu'en Allemagne, ils rêvent pas d'avoir un sélectionneur qui les emmène au moins dans le dernier carré.
Mais Stephen Brun sort de ce corps, quoi. Toi, tu sais que dans 2 ans, ça va encore gagner.
Non, mais
c'est fou, quand même.
Mais c'est pas que je sais, c'est que je regarde les faits.
Okay. Celui qui a les meilleurs stats, c'est lui. Donc,
c'est ahurissant, ce pourcentage de victoire, de réussite. Cette façon, la rage, t'as vu la rage. En plus, il y a une question, effectivement, de, encore une fois, commitment, quoi, d'investissement dans le projet. T'as vu la rage lorsque les Français marquaient des buts à la Coupe du Monde. Il a ça dans le sang. C'est un mec qui a envie de gagner et qui, en plus, alors même si l'expérience n'a pas totalement porté ses fruits, est capable de se renier, c'est peut-être un petit peu fort comme terme, mais qui est capable de changer son moule. Il a tenté de passer en 3-5-2 pour intégrer des nouveaux...
Trop compliqué.
Ça va quand même, on comprend.
Pour intégrer Benzema, pour le faire jouer avec Mbappé, pour s'adapter aux nouveaux profils.
Il a eu aussi un succès.
Il sait s'adapter aux nouvelles générations.
Exactement,
ça, c'est pas donné
Pascal,
à tout le monde.
Et surtout, voilà. Il gagne.
Ça, c'est l'argument pour dire qu'il faut le signer 4 ans. Pascal Duprat et ensuite Marion.
Alors, si j'étais à sa place, je ne re-signerais pas pour l'équipe de France, mais j'irais exporter mon talent ailleurs. J'irais proposer mes services au Brésil, par exemple, pour montrer qu'on peut gagner aussi avec les Brésiliens.
Et c'est pas ce qu'ils ont proposé à Zinedine, justement, les Brésiliens,
Tant il est performant, parce que Deschamps, c'est le meilleur sélectionneur contemporain, quoi qu'on en dise, quoi qu'on puisse en penser, qu'on critique la manière de jouer de l'équipe de France. Parce que quand on gagne, on a plus que ça à faire, c'est-à-dire critiquer le jeu de l'équipe de France. Pensez-vous que les Italiens, ils critiqueraient le jeu des Italiens s'ils avaient été champions du monde en 2018 et finalistes en 2022. Donc, il doit signer 4 ans pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a une nouvelle génération qui commence à émerger. Et il serait bon qu'il la suive le temps que cette génération se mette en place, qu'elle trouve ses marques. Une génération de joueurs compétitifs, donc ce qui veut dire que l'équipe de France va être compétitive. Et puisque son sélectionneur a montré qu'il était compétitif, eh bien, pourquoi changer? Il n'y a qu'une chose.
Non, mais pourquoi changer? Mais signons-le pour toute la vie. Allons-y, voilà.
Mais pourquoi 4 ans? Parce qu'il y a un championnat d'Europe en Allemagne.
Mais il y aura un championnat ensuite, d'Europe et un championnat du monde, après,
et puis, une fois la Coupe du Monde terminée, eh bien, Deschamps va partir parce qu'il aura parachevé son œuvre, tout simplement. Donc, il faut le faire signer 4 ans. Tu évoquais tout à l'heure, Marie, le fait que le Gret va peut-être être bousculé ou remplacé pendant Limogine. Son mandat. Mais s'il est signé, c'est accepté par le Conseil fédéral.
Oui, bien sûr.
Donc,
bien
sûr. Bah, il peut signer 4 ans. Il n'y a aucun problème. Le prochain président, il sera tout content d'avoir Didier Deschamps.
Ah, c'est pour rebondir sur l'extrait. Tu sais, il dit je l'aime, il m'aime.
Non. Le vrai problème du fait qu'on ne légitime pas comme on devrait le faire Didier Deschamps, qu'on ne l'adoube pas, c'est qu'il y a, eh bien, le phénomène du football français, Zinedine Zidane, qui a performé avec le Real Madrid et qui se trouve être libre à l'instant. Mais qui nous dit que dans 2 ans, Zinedine Zidane sera libre? S'il choisit d'entraîner Manchester United,
mais de faire signer Didier Deschamps 2 ans ne veut pas dire que finalement tu vas le garder 4 ans. Ça ne veut pas dire que tu le reprolongeras pas. Mais c'est peut-être ce que veut nous dire Marie. C'est peut-être aussi de se dire et de toujours le maintenir sous pression, sous la pression des résultats, mais, même si évidemment il doit se
mettre dans cette pression-là.
Il faut un groupe dans la tranquillité, mais quelle pression? T'as vu les résultats qu'il a obtenus? Mais je veux dire, je pense qu'on est le seul pays à vouloir remettre en question l'entraîneur qui allait faire gagner une Coupe du Monde, faire finale avec un groupe qui était totalement mais décimé. On a quand même perdu, je crois, 6 ou 7 énormes joueurs titulaires incontestables. Avec ça, on arrive à faire finale. On fait une première mi-temps en finale. On est transparent. Il change de système. Il fait rentrer des joueurs. Les rentrées de Colomani et de Thuram sur la finale avec les 2 buts de Kylian qui nous fait égaliser. Enfin,
non, mais Marion, moi, je remets pas du tout en question la légitimité de ce mec-là. Je dis juste que. En termes de négociation, c'est logique de se dire pourquoi faire 4 quand tu peux faire 2. C'est juste logique.
Mais en fait, les 4 ans, si tu veux, le problème, c'est que les échéances internationales s'enchaînent extrêmement vite. À la prochaine échéance internationale, c'est le 25 mars au Stade de France contre les Pays-Bas pour l'éliminatoire de l'Euro 2024. Donc le 25 mars, bah, c'est demain. Donc si tu veux, t'as un groupe avec beaucoup de jeunes qui arrivent, comme l'a dit très bien Pascal. Il y a ceux qui vont réintégrer, qui étaient blessés, comme l'équipe MB, Léon Koukou, Lucas Hernandez, qui sont blessés au tout début de la Coupe du Monde. Tout ça, il faut les réintégrer, il faut créer un groupe. Après ces jours-là, ils repartent en club. Si dans 2 ans, ils se disent éventuellement, ces joueurs, bah, on peut peut-être changer de discours, changer d'entraîneur, changer de méthode. On sait très bien que les sélections internationales, quand tu arrives en équipe de France, il faut te remettre dans un moule. Quand tu as l'habitude d'un discours, que tu as l'habitude d'un entraîneur, que tu as l'habitude d'une méthode, qu'il y a l'habitude d'une méthode de fonctionnement et d'un discours, et que ça marche, mais pourquoi changer? En fait, je comprends pas pourquoi changer quelque chose qui marche. Moi, c'est ça qui me. Enfin, je sais pas, je pense que c'est.
Peut-être
on est
qu'en France
pour
avoir
coup,
ce genre
de saison
qu'il sera à la tête de l'équipe
de France. Mais c'est plus fun sous prétexte que ça fait 16 ans.
C'est uniquement parce qu'il y a Zinedine. Il y a le nom de Zinedine qui plane. Et donc, ça fait tellement rêver et c'est tellement mythique. Et effectivement, bien sûr qu'elle serait mythique.
Il y a une question de culture sportive là-dedans. Effectivement, c'est très français parce qu'effectivement, dans n'importe quel autre grand pays de football.
On se poserait même pas la question.
Exactement. Il serait placardé comme une légende. Et d'ailleurs, ça vaut aussi à des degrés divers pour Hugo Lloris, qui est toujours critiqué, qui est une légende du sport français et du football, même, j'ai pas peur de le dire, mondial. Il faut rappeler quand même que le temps, c'est un temps long sur le job de sélectionneur. C'est-à-dire, signer 2 ans, c'est comme signer pour une saison quand t'es entraîneur de club. Et le modèle fédéral avec Le Gret, avec Deschamps, il a d'abord signé pour 4 ans, il a re-signé pour 4 ans. Et comme ça s'était pas bien passé à l'Euro, pour la première fois depuis le début du mandat de Deschamps, Le Gret avait dit cette fois-ci, on va signer que pour 2 ans.
Voilà le résultat. Eh ben, c'était peut-être pas si mal.
C'est pas parce que ça a marché, je suis désolé. C'est une question quand même de point de vue, de confiance accordée, de message envoyé. Voilà, 4 ans, ça veut dire que qu'est-ce que tu veux lui dire à Deschamps? Il a perdu au tir au but, ce qui aurait pu être sa deuxième finale de Coupe du Monde consécutive. C'est du jamais vu depuis plus de 30 ans dans le football mondial de faire 2 finales de suite. C'est Bilardo et Beckenbauer qui l'ont fait 2 fois de suite en 86 et en 90. Mais je veux dire, à un moment donné, il faut quand même se pencher, il faut regarder ce qui se fait, ce qui s'est fait, ce qui peut se faire. C'est ahurissant de se demander, de se dire, ah ouais, on reprend un petit peu de Deschamps, mais pas trop quand même, hein, on va rester prudent.
Deux choses à apporter pour aller avec Marie. Déjà, tu as raison, Didier Deschamps n'a pas apprécié de ne pas être prolongé avant la Coupe du Monde et de devoir attendre de faire ses preuves pour cette Coupe du Monde. Enfin, il n'a pas aimé. Il a pas, c'était pas, pas le plan rêvé pour lui. Voilà. Peut-être que là, c'est sûr qu'au moins avec ses 4 ans, bon, bah, il est sûr qu'après l'Euro, même si ça se passe un peu moins bien comme ça, ça a pu se passer lors de l'Euro 2020, bon, bah, il sait qu'il a son objectif, c'est la Coupe du Monde 2026. Ok. Mais c'est pas parce que tu fais signer Didier Deschamps pendant deux ans que c'est de la défiance. C'est pas parce
mais
que tu fais
ah
signer.
Mais bien sûr que mais si. Tu nous as pas convaincus, donc tu dois refaire tes preuves.
Petit,
non,
ouais.
Ça veut juste dire l'échéance qu'on regarde, l'échéance sportive que l'on vit, c'est la Coupe d'Europe. En premier lieu.
Ben oui.
Mais l'Euro, c'est dans un an et demi. T'as des éliminatoires au mois de mars.
Les deux premiers contrats qu'il a signés, leur durée était de 4 ans. Donc pourquoi tout d'un coup revenir à 2 ans sous prétexte qu'il aurait perdu sa deuxième finale de Coupe du Monde consécutive au penalty. Et franchement, mais qu'est-ce qu'on veut de plus concernant Deschamps? Quelles sont les meilleures garanties qu'on peut lui trouver? Donc qu'on le fasse signer 4 ans, d'autant qu'avec la jeune génération, le fait que ces joueurs sachent que le sélectionneur est là pour 4 ans, c'est aussi pour eux un moyen d'être encore plus à l'écoute.
Et si on fait 0 points, 3 défaites au premier tour de l'Euro, que ça se passe mal avec le groupe, que la communication passe pas et qu'il sent pas son équipe, rien ne l'empêche de démissionner, même s'il lui reste 2 ans de contrat, il aura pas envie d'aller au casse-pipe 2 ans après, il dira bon, écoutez, c'est bon,
ou terminé. Ou de se faire virer avec machin. Un chèque, quoi.
Bah, ouais, je pense pas qu'il en soit là. Ah, donc ouais, même si c'était comme il s'aime Deschamps et Le Graët, bah si c'était le cas dans 2 ans et si Le Graët est encore président, bah il se sépare, il se serre la main, voilà, c'est terminé.
En tout cas,
d'indemnité.
La Fédération française de football.
Des bisounours, Pascal, aujourd'hui.
C'est la passion.
Serre la main.
Je pense que là, l'argent, ce niveau-là, n'est pas le débat principal. Bien sûr, la passion, parce que Deschamps le montre tous les instants. Et puis, c'est asseoir sa notoriété.
Non, mais ce qui est sûr, c'est que les négociations se poursuivent, je le disais, ça, ce sont nos informations, mais les négociations, ça, je suis totalement d'accord avec toi, c'est pas forcément sur le montant du contrat, oui. C'est plus sur la durée. Et c'est pour ça qu'on en a parlé ce matin, la Fédération française de football qui a convoqué une assemblée générale le 7 janvier prochain pour décider de l'avenir. Donc de Didier Deschamps, un peu de patience, mais on voulait vous en parler. On souhaite une très belle année à tous les supporters des Bleus, une très belle année aux Bleus et à Didier Deschamps.
Évidemment.
Je le disais, on est réunis ce matin pour les grandes gueules du sport pour parler de notre passion, les copains. Notre passion, c'est quoi? Les crêpes. Allez, à tout de suite sur RMC, un homme en colère.
RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h29, on est de retour dans les grandes gueules du sport en ce dimanche 1er janvier. Belle année à vous, les auditeurs, toujours avec Marion Bartoli, Marie Martineau, Pascal Duprat, Simon Dutin, et vous avez entendu la grosse voix et la publicité avec Bartoli Time, le grand retour. La grosse voix, c'était pas toi, Marion, évidemment. C'était, tu sais, le monsieur qui dit Bartoli Time. Hein. J'adorerais avoir une voix comme ça. Donc, c'est le grand retour de Marion Bartoli ce soir, Bartoli Time, de 19h à 20h, avec deux invités exceptionnels. Tout d'abord, l'assistant personnel de Pelé sera notre invité exceptionnel, lui qui l'a côtoyé pendant plus de 40 ans. Il a été à ses côtés jusqu'à la fin et il sera avec nous en direct dans Bartoli Time. Et également, forcément, on va parler tennis avec Marion Bartoli, Ivan Ljubicic.
Il a aidé la Fédération française de tennis.
Voilà, l'ancien coach de Federer. Il n'avait pas trop de travail. Il va venir aider notre tennis français. On a plein de questions, évidemment, à lui poser. C'est ce soir, à partir de 19h, dans 10 minutes. Je vous raconte mon réveillon, si ça vous intéresse.
On attend depuis un moment.
Je sais, vous me posez souvent la question et sur les réseaux sociaux, c'est dingue. Tout le monde trépigne d'impatience. Mais j'y sais, raconte-nous.
Christophe du 73, il est là encore ou pas?
Il est encore là. Et ouais. Jean du 92 est là aussi. Et Jean Cri, alors là, du 78, est là aussi pour.
Le plus impatient, c'est Pierre Habiche. Il attend ça avec tellement d'impatience.
Ouais. Lui, il veut qu'on parle sport. Dès qu'on se dévie un petit peu, il n'est pas content. Notre producteur. Qui arrive dans quelques instants pour l'homme en colère? Juste pour vous dire, le zapping des GG aussi dans une dizaine de minutes, avec d'autres informations à vous donner. Il y a une information que j'aime bien, pas de premier ordre évidemment, mais je l'aime bien. C'est la Fédération, on parlait de la FFF il y a quelques instants, qui voulait rapatrier les Bleus dans un vol low cost après la finale de la Coupe du Monde. Ils n'étaient pas du tout, du tout contents, les joueurs de l'équipe de France. On pourra développer cette information si, évidemment, ça vous intéresse. Tout de suite, Pierre Amiche.
Quand je suis content, je vomis. Et là, je suis hyper content.
Un homme heureux.
Je suis tellement content.
Pierre Amiche.
Pierre Amiche, bonjour.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Alors,
bonjour.
Pourquoi heureux aujourd'hui en ce 1er janvier ?
Eh ouais, 1er janvier, je suis heureux parce que cette année, j'ai décidé de vivre dans une année apaisée. Plus de colère, plus de combat. Une betterave. Je vais kiffer la vie à bord du grand train de l'indifférence. Les délires de la FIFA, Papy Le Graët, Bernard Laporte, les abus sexuels dans le sport, le Qatar, les mensonges des politiques, le départ du Tour de France depuis la Lune, Moutet, Père, le golf, tout ça, c'est terminé. 2023, je suis Gandhi. Pas pour l'aspect pédophile, pour l'aspect apaisé et non violent. Non, parce que ça me fait souffrir de devoir être courageux pour les autres. Toutes les semaines, il y a le gourou Skippy à ma droite qui me chauffe. Ah bah tu devrais dénoncer si, tu devrais dénoncer mi. Puis moi je passerai les plats en toute neutralité. C'est la Suisse qui chauffe Donald Trump pour attaquer la Corée du Nord. Mais si, ça va être super, on va s'amuser et tout. Donc c'est terminé. Et puis des chroniques en 4 ans, j'en ai écrit plus de 250. Ça rend zinzin. Deux fois par semaine, je suis jugé sur 3 minutes, on dirait ma vie sexuelle, putain. Bon après, j'avoue que quand j'ai vu Vinicius, qui s'était encore pris un torrent d'insultes racistes sur la pelouse de Valladolid, j'ai commencé à douter. Je me suis demandé si l'apaisement allait survivre 10h33. Alors je fais un test juste pour voir si je peux tenir mes bonnes résolutions. Ils ont dit quoi, les supporters espagnols ? Bon, tant pis les bonnes résolutions, je peux pas rester Gandhi. Non, parce que ces mots doivent être traduits et prononcés ailleurs que dans une tribune de dégénérés pour qu'on mesure l'horreur des propos. Vinicius Junior, joueur du Real Madrid, à l'aube de l'année 2023, se fait traiter, je cite, de nègre de merde, de putain de singe et de connard de noir. C'est insoutenable et l'excuse de l'hystérie collective et du cadre spécifique, elle n'est plus entendable. Mais ce qui me rend vraiment aussi triste que colérique, c'est que les conséquences de tout ça sont nulles. Rien. Il se passe jamais rien. L'attaquant brésilien, mi-dégoûté, mi-résigné, écrit d'ailleurs sur Instagram « Les racistes continuent d'aller dans les stades et de regarder de près le plus grand club du monde. » Il parle de Madrid. « La Liga continue à ne rien faire. Je vais continuer la tête haute à célébrer mes victoires et celles de Madrid. En fin de compte, c'est ma faute, ma majuscule. » En Italie, au Portugal, en Espagne, en Angleterre, en France, aucun championnat n'est épargné. Ça me gave, ça me saoule de pas pouvoir aller dans un stade de foot avec mes gamins sans qu'ils entendent des flots d'insultes pendant 2 heures. Et ça me gave d'avoir peur d'une bagarre, d'une charge de CRS, d'une insulte raciste. Et parce que c'était plus facile de renforcer la sécurité plutôt que de foutre dehors les plus violents, on a bâti des parcages. Et en enfermant les supporters dans des cages comme des animaux, on a exacerbé les comportements les plus vils. Et dans le même temps, on a créé une bulle d'impunité où, sous couvert de supporterisme, on accepte les comportements les plus débiles. Racisme, homophobie, misogynie, violence dans un stade, si on a un maillot et qu'on se revendique supporter, tout passe. Et attention, je dis pas que le football est raciste, homophobe et misogyne. Je dis qu'une partie des tribunes, parfois infimes, se cache derrière le football pour assumer les idées les plus bas de plafond. Alors oui, désolé, je critique le foot, mais j'ai vu aucun autre sport avec des cris de singe et des croix gammées en tribune, pardon. Et comment le foot arrive à ne pas faire le ménage, je veux dire, après ce genre d'événement? Tu convoques le président de Valladolid ou n'importe quel club où les supporters sont crétins et tu dis, les gars, on vous retire des points. Et puis la fois suivante, on vous en retire 6. Et puis la fois d'après, on vous en retire 9. Et si à la fin de la saison, vous descendez, bien fait pour votre gueule. Fallait agir. On peut pas accepter l'impunité sous prétexte que c'est pas gentil de punir tout le monde. Si un club accepte qu'une frange, même infime de ses fans, soit capable de traiter un joueur de, je le rappelle, nègre de merde, alors ce club ne mérite pas d'être dans l'élite. À force de fermer les yeux, de se boucher les oreilles, de refuser de dire que c'est mal, on accepte le fait que le football devienne l'instrument utilisé par les plus affreux. Cette affaire, une de plus. J'espère en tout cas qu'elle deviendra celle de trop.
Merci. Bravo. Pierre Amiche. Bravo, Pierre. Pour cet homme heureux. Enfin, à la base, il était heureux parce qu'il voulait être tranquille. Et puis finalement, il a basculé dans l'homme en colère. Donc, je vais vous demander si vous aussi vous êtes en colère, évidemment, mais GG. Marie Martineau.
Eh oui, bien sûr que je suis très en colère.
Pascal Duprat.
Oui, en colère.
Marion Bartoli.
Ça va au-delà de la colère, c'est du dégoût.
Simon Dutin.
Oui, évidemment.
Alors sachez que Vinicius Junior a évidemment réagi sur son compte Twitter. Voici ce qu'il a déclaré. Les racistes continuent d'aller au stade et de regarder de près le plus grand club du monde et la Liga continue de ne rien faire. Je vais continuer à garder la tête haute et à célébrer mes victoires et celles de Madrid. Finalement, c'est ma faute. Voici ce que dit Vinicius Junior. Première réaction, Simon Dutin.
J'avais déjà entendu la réaction de Vinicius, je crois, dans le papier de Pierrot.
C'est
affligeant. Il y a malgré, enfin, je sais pas comment le prendre. Évidemment, on va pas faire effectivement le festival des poncifs. On va pas condamner le racisme. Le racisme, c'est pas bien. Le machin, des abrutis, il y en aura partout. Et Dieu merci, ils s'expriment.
Oui, mais là, ce qui est intéressant, moi, je suis d'accord avec toi. Évidemment, c'est toujours très important de le dire. Mais Pierre l'a rappelé, donc ça c'est parfait. Mais allons un peu plus loin. La Liga continue de ne rien faire. C'est une véritable attaque.
Mais tu sais, oui. Après on va.
Non mais c'est fort raison. comme mot, c'est-à-dire que.
On va se fâcher avec personne, mais bon, il y a des niveaux de, je sais pas comment l'exprimer, de tolérance ou des choses. Va circuler en Espagne ou en Italie, t'entends des choses, des blagues, souvent sous forme un petit peu d'humour, et il y a pas effectivement, ça peut exister en France. Bon, il y a une sorte de racisme qui subsiste un petit peu culturellement, quoi. Hein, on va pas se le cacher, quoi. Hein, je connais des Italiens qui te disent, qui effectivement te disent, ou des Espagnols, bah oui, il y a beaucoup de Noirs dans votre équipe de France. Bon,
mais là, c'est pas le fond de la blague.
Il y a un racisme qui subsiste, qui est culturel. Et on va pas fermer les yeux là-dessus. Maintenant, qu'est-ce que tu veux que je te dise à la Liga? Effectivement, c'est irresponsable de leur part. C'est absolument affligeant. Il y a quand même des organismes. Il y a une Confédération européenne de football, il y a la FIFA, il y a des gens qui doivent pouvoir dire à ces gens-là, non mais c'est absolument honteux, et éventuellement, je sais pas, brandir des menaces, soit d'exclusion de Coupe d'Europe, si vous continuez à laisser passer des propos comme ça.
C'est là où on va en venir,
chez vous.
C'est ça.
Mais, donc voilà, faisons-le. Après, quel est le... Et que y ait des... Un jour, le regretté Bernard Tapie, lorsque j'étais jeune journaliste, m'avait dit, tu sais, les homophobes ou les racistes dans les stades, parfois ils le sont pas en dehors des stades. Mais il y a des gens pour qui l'horizon culturel et affectif n'est constitué que par les résultats de leur club. Et lorsqu'ils rentrent dans un stade, en fait, ils sont plus vraiment eux-mêmes. Ils n'ont qu'un but, c'est faire dégoupiller l'adversaire. Et à ce titre-là, ils sont capables de faire des cris de singe pour un joueur noir. Ils sont capables de traiter de PD, hein, voilà, des joueurs, parce que pour eux, dans leur langage, dans leur univers, c'est une insulte, alors que fondamentalement ils ne sont pas homophobes. Donc qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est le reflet du fait que le football provoque des réactions chez des gens absolument irrationnelles, complètement ahurissantes. Alors oui, les condamner, comment? Oui, la Liga a un rôle à jouer, mais je pense que si la Liga ne fait pas son travail, je pense que au-dessus, il faut en venir.
Simon, tu nous dis que c'est le reflet de la société. Je suis désolée, moi, je vois pas des gens ailleurs quand je prends le train s'insulter de sale noir. Je vois pas des gens ailleurs.
C'est ce que je te dis, c'est des comportements qui sont cristallisés, notamment dans des stades de football, parce que le football provoque ce genre de réaction absolument dégueulasse chez certains
individus. Malheureusement, il n'y a plus non plus que le football qui provoque ce genre de réaction. Attention à la banalisation du racisme. Je suis désolée, j'ai l'impression qu'on ne va pas spécialement tout le temps dans le bon sens. Et il y a quand même, ne serait-ce que voir les sorties de certains confrères il n'y a pas très longtemps. En dehors du sport, il y a des phrases qui sont dites comme ça. Mais mon famille, maintenant, tu peux dire des trucs et ça passe. Et je crois que c'est notre rôle quand même, si on veut défendre en tout cas une certaine idée de ce qu'est le respect des autres, c'est de au moins le condamner, quoi.
Ça me fait penser à quelque chose durant la Coupe du Monde. J'imagine que vous avez vu ces images des supporters argentins avant le début du Mondial, hein, pas du tout autour de la Coupe du Monde.
Chanter des chants racistes contre Mbappé.
Exactement. Voilà, cette histoire me fait aussi penser à ça, et je trouve que on en avait pas assez parlé à l'époque. Ça a été relayé.
Mais non, parce qu'on va nous dire que c'est les Argentins, c'est la bonne ambiance, ils ont le foot dans le sang et que ils comprennent comment mettre l'ambiance et que c'est les meilleurs spectateurs du monde et que du coup ça passe. Mais bien sûr. Mais à force de laisser tout passer, de toute façon, et d'avoir une tolérance en disant, ouais, mais vous comprenez, on peut pas analyser comme ça une personne dans un stade, c'est trop difficile. Et c'est là où moi, je suis complètement d'accord avec lui. T'es obligé de censurer. t'es obligé de sanctionner le club dans sa globalité, t'es obligé de leur retirer des points, t'es obligé de les menacer, de redescendre. C'est la seule solution pour qu'ils fassent le ménage. C'est ce qu'avait fait l'Angleterre avec les hooligans. Ça avait été le seul moyen.
Le fléau était pas un épiphénomène, c'était presque généralisé en Angleterre. Ils ont réussi à l'éradiquer en très peu de temps.
Bien sûr, parce que
on n'arriverait pas à le faire pour ce qui est du football, pour ce microcosme de, ou cette minorité d'abrutis supporters qui sont là juste pour déverser leur haine. Donc moi, ce que j'aimerais dire, c'est que ce qui m'attriste encore davantage, vous comprendrez bien, c'est que c'est le sport que j'aime, le sport que j'ai pratiqué, le sport qui me fait vivre. Donc et on montre à ce titre-là pas le bon exemple. Donc c'est aux instances de faire le nécessaire. Et la deuxième chose que je voudrais ajouter, on ne va pas verser dans un débat complètement politique ou socio-politique, mais il faut parler de tous les racismes aussi. Parce qu'il y a le racisme envers les Noirs, il y a le racisme intolérable, quelle que soit la ségrégation, mais aussi le racisme que peuvent subir quand on dit sale français, ou c'est aussi une forme de racisme, mais c'est aussi condamnable. Donc voilà, en tout cas, le lieu d'expression du sport, lorsqu'il est suivi par de nombreux spectateurs, doit être un havre de paix, un lieu où on s'enthousiasme, et je suis certain que les instances fédérales peuvent faire le nécessaire pour éradiquer. Il n'y a que la répression. Donc que les clubs qui ont des supporters de ce genre dans leur sein, eh bien soient sanctionnés tout simplement en nombre de points, et puis à force de sanctions, il y a que la répression qui permettra à ce que ça soit complètement.
Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Je pense que même si on perd, si on perd au passage une génération ou une génération et demie pour qui c'est fichu et on n'a plus le temps, la répression, peut-être que c'est un moyen d'action. À court terme, mais c'est l'explication, l'éducation. Oui, il faut que les gens arrêtent de se rendre aussi malades que ça pour des résultats sportifs, autour du comportement des équipes, soit qu'ils affrontent, parce que effectivement, il faut expliquer aux gens que des propos qui dans leur imaginaire, dans leur construction intellectuelle, ne sont pas graves, ne sont pas abjects, le sont pour le coup. Effectivement, mais il y a un travail, effectivement. Bon, là, il faut repartir à la base, et ça part de l'enfance et de l'éducation.
Rapidement, réponse de Pascal et Marion. Ok, bon voilà, c'était rapide. Merci Pascal. Marion, tu voulais ajouter le mot de la fin.
Oui, effectivement. Bah, moi, mon mari a joué au football en première division, est en première division en Belgique. Il est belgo-marocain. Quand il allait jouer dans certains clubs, surtout dans une partie de la Belgique, il se faisait se traiter de kebab, de toutes les insultes racistes envers sa partie, du Maghreb. Et ça, il l'a ressenti, et c'est très difficile à entendre. Donc, nous, on lit comme ça une déclaration. Déjà, ça nous touche. Mais moi, dans ma famille, avec mon mari qui se fait insulter comme ça, ça me touche encore plus. Donc, d'entendre encore une fois, et comme le disait Marie, des blagues qui passent, effectivement, qui paraissent acceptables. Ah oui, on va voir quelqu'un qui va jouer en Suède, qui est noir. Il dit, la Suède, dis donc, maintenant, ça vient beaucoup du Sud. Enfin, des choses comme ça qui pour nous paraissent mais totalement inentendables, et sur des gens, ça les fait rigoler. Ça les font rigoler. Et ça, malheureusement, quand ça commence à s'ancrer comme ça, quand tu commences à laisser passer des choses, le foot exacerbe tout. Totalement, et là je suis d'accord avec Simon, la haine, et surtout quand tu supportes une équipe, tu te mets dans des états qui quasiment des états seconds, et donc les gens acceptent de tout lâcher, tout entendre. Ils ont l'impression que, comme c'est au milieu d'une foule, ils vont pas être entendus, et que donc ils ont cette espèce d'impunité totale. Et moi, je sais que mon mari, ça, bien évidemment, quand il rentrait à la maison, c'était... C'est très dur à supporter, et donc moi je l'accepte pas du tout, et il doit y avoir des sanctions, et les sanctions, ça va être au niveau des ponts, l'argent, il n'y a que ça qui touche de toute façon.
Et c'était important d'en parler ce matin dans l'émission. Merci à Pierre Amiche pour ce billet. Il est 10h45, on revient dans une poignée de secondes en ce dimanche 1er janvier. Le zapping des GG, on s'en fout pas, c'est dans quelques temps. Grenade.
Grenade.
RMC, les grandes gueules du sport, 9h midi.
Jean-Christophe Drouet.
10h46, on est de retour dans les grandes gueules du sport, dimanche 1er janvier, belle année à vous. Merci de votre fidélité. Alors les GG, sachez, je vous donne quand même le programme, à partir de 11h, le bras de fer des GG autour de Julien Alaphilippe et Patrick Lefebvre qui lui envoie grenade sur grenade. Est-ce que c'est de l'acharnement? Est-ce que c'est du management? Vous me direz ce que vous en pensez, et évidemment, vous n'êtes pas d'accord. Alors, j'aimerais vous dire quelque chose des GG. On est le 1er janvier, on se marre, on rigole. Albanzaï, c'est à la réalisation. À chaque fois, nous sommes en fin de débat, nous sommes en début de débat. Il vous met une petite musique pour vous rappeler le réveillon, tout ça, on se régale et tout. Et puis, moi, j'essaye d'accompagner les gens. Mon métier, c'est évidemment de vous mettre en valeur. Mon métier, c'est d'articuler un débat.
Tu le fais si bien.
Mais c'est aussi d'accueillir ce qui arrive et puis de désaccueillir en disant ne bougez pas, on arrive dans quelques instants, tout ça. Et en fait, à chaque fois qu'on met une musique, vous mettez tous à chanter. Je trouve ça génial. Mais moi, je suis incapable de faire une phrase. Donc, ce que je vous propose, pour que vous mettiez dans la peau d'un animateur, on va mettre une musique et je vais vous lancer chacun, à tour de rôle, sur un débat. Je vous pose une question, il faut me répondre sérieusement et moi, derrière, je vais chanter. Et vous allez voir si vous allez y arriver. Ok ? Marie, toi qui es la meneuse de la troupe, on commence avec une chanson. Et attendez. Avant la chanson, les copains, avant la chanson, voici l'intitulé.
Oui.
Comment ça se passe la saison de Quentin Fillon-Maillet ? C'est parti.
C'est un début.
Mais le feu
Fillon-Maillet.
C'est un début de saison où il tâtonne un peu.
Je voulais trop y arriver, mais c'est pas possible.
Mais nous avons confiance en Quentin. Quentin va bientôt parvenir à performer.
Bravo Pascal.
Non mais il faut vraiment qu'on parle parce qu'il chante mal. Donc vraiment, Jean-Christophe, vraiment t'es une casserole.
Alors j'en ai entendu des attaques, mais alors celle-là.
C'est la solidarité, Chéchi.
Non mais vraiment, le 1er janvier, Jean-Christophe en concert, non, c'est
alors,
trop.
Alors détrompe-toi. Alors, je suis à Rouen le jeudi 14 janvier.
Au Zénith de Rouen.
Je suis à la Bourboule. Non. Bon, les copains. Voilà, non, c'est difficile. Non
ah, bah, impossible.
D'accord, c'est difficile. Voilà.
T'aurais pu en profiter pour nous parler de ton réveillon quand même.
Alors,
ah, oui.
Alors ça, ah, c'est oui. Ça c'est dans le zapping des GG et c'est tout de suite, on s'en fout pas.
Yes.
Le zapping des GG. Le retour.
La première information dans le zapping des GG à vous donner, le réveillon, ce sera dans quelques instants. Mais tout d'abord, la Fédération Française de Football qui voulait rapatrier les Bleus dans un vol low cost après la finale de la Coupe du Monde. On s'en fout pas. Marie Martineau.
Ah, on s'en fout pas.
Marion Bartoli.
Non, je m'en fous pas.
Ok, Pascal Duprat.
Franchement, je m'en fous.
Ok, mon cher Simon.
Je m'en fous, Jean-Christophe.
Ok, les Miles, ça n'intéresse pas Simon Dutin et Pascal Duprat, j'ai bien compris.
Ils le font sur un air tellement
alors,
hautain.
Alors, ce sont des informations du Parisien et d'après le quotidien, il y a des petites économies souhaitées par la Fédération Française de Football qui ont pu être la source de malentendus puis de frictions entre la FFF et le groupe de Didier Deschamps. Outre le fait qu'une partie du staff a été oubliée dans la distribution de téléphones et de cartes SIM, ou que la FFF a refusé de payer un supplément pour décorer une partie de l'hôtel des Bleus au Qatar. La question du transport en avion a été un sujet de discorde. Donc trois jours avant la finale de la Coupe du Monde contre l'Argentine, les hommes de Didier Deschamps ont appris que leur fédération leur avait réservé un vol retour low cost à bord de la compagnie Air Portugal. La fédération a finalement fait...
C'est chaud ça quand même avec tout ce qu'on vient de dire et tout.
Non mais ça n'a rien. Attends, t'as déjà pris la table.
T'es raciste portugais, c'est pas grave.
Bon, très bien. La fédération a finalement fait marche arrière. on peut rien dire en fait. Voilà.
Ça, c'est l'argument des racistes. On peut plus rien dire.
Merci Marie de ce soutien. La fédération a finalement fait marche arrière devant le tollé, réservant finalement un vol Air France, mais tous les joueurs n'ont pas pu être surclassés et certains joueurs étaient en classe économique. Voilà, je vous donne l'information. Et sachez qu'il y a un membre des Bleus qui a déclaré dans les colonnes du Parisien, on a rapporté des millions d'euros à la FFF avec la place de vice-champion du monde et on voulait nous faire revenir en comptant les sous. C'est minable. Marie.
Ouais, je suis assez d'accord. Alors, mais pas pour les mêmes raisons. C'est juste que c'est des athlètes. Ils sont en plein milieu d'une saison. Et je pense que les rapatrier dans des bonnes conditions. Et pourtant, vous savez très bien que je suis de gauche et que je fais très attention à comment je m'exprime. Mais je suis surtout athlète first. Je suis surtout athlète first. Et je crois qu'en plein milieu de saison comme ça, ils méritaient de rentrer dans des bonnes conditions parce qu'ils enchaînent derrière, les gars, et qu'ils retournent dans leur club et qu'il faut finir la saison. Alors après, quelles étaient la différence de conditions de retour entre Air Portugal ou Air France? Je sais pas. Mais sur un long courrier, par exemple, ça aurait été inadmissible qu'il ne rentre pas en puissant, on dit comme ça. En pouvant dormir, par exemple, dans l'avion.
T'es de gauche, mais sans béchamel.
Mais à l'école. C'est de bonne guerre, moi je sais.
Je t'aime Marie, évidemment. Marion.
Non, mais la même chose, exactement la même chose. Enfin, je veux dire, le contrat, c'est tellement... Donc, Ronaldo, il avait son jet privé qu'il attendait pour pouvoir repartir, aller s'entraîner, je crois, quelques jours à Madrid. Et donc, en France, on les fait rentrer par Air Portugal. Et on décide ça, en plus, 3 jours avant la finale de la Coupe du Monde. Enfin, c'est, je veux dire, quand on connaît, en plus, dans les fédérations, les dépenses la gestion, qu'il y a. Ouais. Mais oui, la gestion financière. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ne sont pas irréprochables. Alors, vraiment. Et de dire, en plus, pour ceux qui ont été totalement les acteurs qui ont été la tête dans le sac pendant un mois, qui doivent, comme elle dit Marie, enchaîner, Mbappé il enchaînait direct quasiment après l'entraînement puis un match, de se poser la question, on dit on va les faire rentrer en écho, on sait très bien qu'un voyage tu peux pas dormir, tu peux pas t'allonger, c'est des athlètes de haut niveau, enfin je veux dire à la limite le staff ça me choque pas. Effectivement, tu fais rentrer le staff en écho, ils n'ont pas de match à aller jouer, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est un vol, je crois, de Qatar à Paris, ça doit être 6 heures ou 7 heures de vol, tu peux le faire en économique tant que tu
veux. 6h30.
Voilà, il n'y a pas de souci. Mais athlète, et t'as deux, tu dois reprendre un championnat, tu dois reprendre les entraînements, enfin, je suis désolée. Et surtout, qu'alors en plus, quand tu vois l'argent qui est dépensé dans des fédérations, ou le moins qu'on puisse dire, c'est que vraiment, il y a des économies à faire ailleurs que dans les billets d'avion des joueurs, je trouve ça vraiment totalement minable.
Ok, deuxième information dans le zapping des GG à vous donner, c'est Rafael Nadal qui s'incline pour son premier match de l'année, on s'en fout pas, Simon Dutin.
M'en fous.
Ok, t'as bien travaillé ton zapping en tout cas. Pascal Duprat.
Je m'en fous pas, mais je vais laisser Marion sur ce sujet.
Ok, Marie Martineau.
Ouais, moi j'écoute, pareil.
Ok, Marion, ça t'intéresse évidemment. Mais je pense que ce que je vais vous faire écouter va tous vous intéresser, mes petites GG. Alors qu'il défendra son titre à l'Open d'Australie dans quelques semaines, Rafael Nadal s'est donc incliné hier à Sydney lors de la United Cup. C'est une nouvelle compétition. On va pas expliquer le détail parce qu'on s'en fout. Face au Britannique Cameron Norrie en 3-7. Si, si, compétition mixte, tout ça. Alors, il y a la France, il y a tout ça. Ouais, je veux pas le savoir. Donc, il a perdu en 3-7. Et voici ce que dit Rafael Nadal en conférence de presse. On lui pose la question une nouvelle fois de sa retraite. Réponse sans détour.
À chaque fois que je viens en conférence de presse, on dirait que je dois prendre ma retraite. Vous êtes très très intéressé par ma retraite. Ce n'est pas le cas pour le moment. Le jour où cela arrivera, je vous le ferai savoir. Mais arrêtez avec ma retraite parce que je suis là pour continuer à jouer au tennis.
Marion.
Non, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que depuis maintenant quelques tournois, donc ça avait commencé à Paris-Bercy, en fait, tu vois la même physionomie de match qui se répète, c'est-à-dire Rafa qui commence, qui domine son adversaire, qui l'étouffe petit à petit, qui remporte le premier set, et puis ça commence à être accroché au deuxième. Et quand ça rentre dans un troisième set, bah, comme il a du mal maintenant à avoir la caisse physique, parce qu'à cause de son pied, il peut plus s'entraîner autant qu'auparavant, en fait, il abrège les échanges, il veut faire service volé, ce qui est pas du tout son jeu. Donc, on sent très bien qu'une répétition, en fait, de déroulement de match, et ça je l'avais pas vu auparavant du tout chez lui. Donc même quand il revenait de blessure, il arrivait assez rapidement à retrouver une belle caisse physique, à emmener ses adversaires dans des gros combats, et donc parfois aller gagner ou aller perdre, mais il y avait pas cette manière d'essayer d'abréger les échanges par manque d'entraînement, en fait.
Donc tu légitimes le fait qu'on lui repose la question sur sa fin de carrière.
En fait,
ça sent pas bon pour toi, quoi.
Oui, mais bon, bien évidemment, en tant que sportif, et on en reparle d'ego, mais c'est totalement logique, tu peux pas lui dire comme ça, entre guillemets, tu commences à te faire vieux, quand est-ce que tu vas prendre la retraite, tu vois, enfin, ça, juste, c'est lui qui en a marre d'entendre cette question, et ça, je peux totalement l'entendre. Mais dans les faits, dans la réalité, en fait, le problème, c'est que, bon, il a cette pathologie au niveau du pied, je crois que ça avait été largement suivi et couvert pendant Roland-Garros, donc, les auditeurs qui nous écoutent la connaissent, et à cause de ça, il doit, nettement baisser ses doses d'entraînement. Et c'est un joueur qui a toujours eu l'habitude de beaucoup s'entraîner, de pas forcément passer énormément de temps en salle de gym, mais passer beaucoup d'heures sur le terrain pour régler ses gammes, pour se rassurer et pour aussi, bien évidemment, avoir cette caisse physique en match. Et ça, comme il peut plus le faire, ça se ressent. Mais comme c'est quelqu'un qui est capable aussi de renaître de ses cendres à l'infini, et l'année dernière, il arrive, il gagne l'Open d'Australie contre toute attente. Personne n'avait parié sur lui, misé sur lui avant le départ de l'Open d'Australie. Il est né 2-7-0 en finale contre Medvedev. Il renverse le match, il le gagne. Moi, je peux pas enterrer quelqu'un, un joueur pareil, quoi, un champion pareil. Donc, je pense qu'il va y avoir un rebond. quand, ça je sais pas, mais pour moi il va encore arriver comme l'un des grands favoris à Roland-Garros, c'est ça, on pourra pas lui enlever. Mais c'est vrai que là, sur dur, sur une surface plus exigeante, sur une surface où il y a des gros impacts, il a plus de mal, mais encore une fois c'est quelqu'un qui est capable de rebondir très vite, donc j'ai vraiment hâte de voir les prochaines semaines.
En tout cas, on imagine que pour un athlète de haut niveau, ou pas d'ailleurs, hein, mais un champion tel que Rafael Nadal, à chaque fois de pointer en conférence de presse, et ça je sais que c'est une déformation professionnelle, à chaque fois on te pose la même question, parce que chacun veut avoir sa réponse à propos de ce sujet. Donc en fait, la seule question qui intéresse les journalistes, ou celle qui est obligatoirement posée, c'est sur sa retraite. Et franchement, à un moment donné, ça doit gonfler. Donc bravo Rafael Nadal pour cette mise au point avec le sourire. Et on le sait, c'est un gentleman. Donc bravo Rafael Nadal. Troisième information dans le zapping des GG, à vous donner le réveillon de votre animateur préféré. Mon réveillon. On s'en fout, on s'en fout pas. Marie Martineau.
M'en fout.
Elle s'en fout, d'accord. Pascal Duprat.
Je m'en fous.
Ok. ça fait beaucoup de drivers dans la tête, ça. Marion Bartoli.
Je m'en fous.
Ok. Simon Dutin.
Si tu savais comme je m'en fous.
Alors, vous savez quoi ? Dans mon contrat, c'est écrit quand tout le monde s'en fout, mais quand ça me concerne, on a quand même le droit d'en parler. Donc, je vais quand même vous raconter. Parce que tout le monde raconte son réveillon, je vous pose la question, mais moi aussi, j'ai envie de vous raconter le mien. Alors, pourquoi je. Vous savez, il n'y a pas de bon ou de mauvais réveillon. La vie est avant tout une histoire de rencontres entre gens civilisés qui s'amusent à l'occasion d'une fête. Peut-être le 31. Et le 31, j'ai mis 8 pour ce réveillon parce que on était en petit comité. Déjà, je trouve que c'est très important de ne pas faire une fête à 15, à 20. Voilà, petit comité, 6 à la maison. Il y avait mes deux filles, donc c'était parfait. Qui ne comptaient pas dans les 6, hein, parce qu'elles avaient déjà mangé avant. Bon, bref, ça, c'est un autre détail. J'ai fait. Enfin, ma femme, parce que c'est un cordon bleu.
Ouais.
Mais elle n'a pas fait des cordons bleus. De magnifiques pâtes carbonara, mais les vraies, hein, à l'italienne. Hein, pas ceux où tu mets des lardons et de la crème fraîche. Hein, ça, c'est exclusion tout de suite. Hein. Les vraies, avec la vraie charcuterie italienne. Voilà, avec
une sauce. Tu veux qu'à 11h, il n'y ait plus personne qui nous écoute, non ?
Oui, c'est ça.
10h59, je suis encore large, non ?
Sinon, on commence un peu à s'embêter. Quand même.
Bon, on va y aller, vous avez raison. Ça n'intéresse personne, ça n'intéresse que moi. En tout cas, voilà, je me suis régalé, mais à minuit et demi, j'ai mis tout le monde dehors. Voilà, en disant, écoutez.
Bien d'arrêt.
Concernant ton réveillon, conseiller en com, c'est le même que celui avec Didier Deschamps, non ?
Oui, c'est ça.
Tu as parlé pendant 3 minutes.
Ah, et t'as rien dit.
Tu nous as rien dit.
Écoutez. J'ai bien mangé et on a bien joué. Voilà, on a fait plein de petits jeux.
C'est bien, ça.
Des petits jeux de société, des devinettes, tout ça. On a bien rigolé, donc je trouve que c'est parfait. Voilà, on me dit d'arrêter dans le casque. D'accord, ok. Je vous raconte tout ça juste après 11h. Vous allez voir, c'est génial, j'ai encore plein de choses à vous dire. Faire du bruit avec sa bouche, c'est comme ça qu'on appelle ça. C'est un métier. A tout de suite sur RMC pour la suite des grandes gueules du sport. On va parler de Julien Alaphilippe et Patrick Lefebvre qui les gratine encore et encore. A tout de suite sur RMC. Bonne année.
RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport.